Alors, bienvenue dans Parlons Ferme. On reçoit aujourd'hui un invité que vous avez déjà vu avec nous, vous avez déjà entendu avec nous, c'est Vincent Breton, président du Breton Biologique. Bonjour Monsieur Breton, on est content de vous avoir aujourd'hui parce qu'en fait on suit l'actualité, on suit votre actualité et on voit que bon, il y avait la crise du porc qui a été très importante en 2024. Et là je sais que vous êtes en démarche actuellement avec la Régie des marchés, puis ça semble aller moyennement bien. Puisqu'on a appris que la Régie des marchés, qui avait ordonné aux éleveurs de porc de tenir un référendum, en fait, ça ne marchera pas, parce que la Régie des marchés ordonne, mais les éleveurs de porc ont décidé de ne pas appliquer l'ordonnance et de se retourner vers la Cour supérieure. Donc on va parler un peu de tout ça. Mais dans un premier temps, on voulait savoir si, à votre connaissance, est-ce que c'est la première fois que finalement une ordonnance donnée par la Régie des marchés n'est pas appliquée ?
Une excellente question. Pour débuter, bonjour Yannick. Donc, je vous dirais qu'une ordonnance n'est pas appliquée. Des fois, il y a eu des contestations. Donc, je ne croirais pas que c'est la première fois là, qu'un parti n'applique pas nécessairement la décision de la régie et la conteste là, pour aller à un niveau supérieur. Là. Donc, non, à mon sens, ce n'est pas la première fois.
Alors, nous, on est toujours un petit peu surpris comme ça de l'extérieur parce qu'on a toujours le sentiment que ben, la Régie des marchés, c'est un tribunal administratif, donc ça règle les problèmes administratifs du monde agricole, comme le tribunal administratif du logement règle les problèmes du logement. On est toujours un peu surpris de voir que ça s'en va dans d'autres cours. Bon, on va suivre, de toute façon.
Je pense que c'est un droit d'appel. Il faut voir la Cour supérieure comme un droit d'appel là, à la Régie des marchés agricoles.
Alors, on va essayer de comprendre votre revendication, pour commencer. D'abord, vous demandez quoi exactement à la Régie?
Oui, ben, dans un premier temps, notre démarche à nous, là, elle n'était pas vraiment compliquée. Là. C'est que lors de la crise porcine suivant la crise du COVID et l'ensemble des problèmes qu'il y avait dans l'industrie, rappelons-nous, hein, il y avait une déportation massive des animaux vers les États-Unis. D'ailleurs, là, exportation ou déportation d'animaux qui existent toujours. Il y a toujours des animaux qui ne sont pas abattus. Les problèmes qu'a eu le plus gros joueur de l'industrie, soit Limel, là, en fermant une usine. Ça a causé le transport des animaux, mais aussi leurs difficultés financières. Donc, il faut se rappeler, puis encore aujourd'hui, et à cette époque-là, là, ce que fait les éleveurs de porc du Québec, là, le syndicat des producteurs, et l'industrie, lors de la négociation de la dernière convention, c'est qu'ils ont négocié une convention qui a fait que dans le fond, l'ASRO, les programmes existants d'aide aux producteurs, sont devenus des programmes d'aide pour l'ensemble de l'industrie. Tu sais, le programme d'ASRO, c'est un programme d'assurance des producteurs qui tient en compte le prix de vente et le coût de production.
Mais qui maintenant couvre toute la chaîne de l'industrie, en fait.
Il couvre la chaîne parce que ces gens-là sont intégrés, là, principalement. Puis dans la convention également ou dans les ententes, bon, là, il y avait une compensation pour l'usine de Vallée-Jonction qui était en grève, tout ça. Nous, comme producteurs, comme on n'est pas à l'ASRO, on était sortis de l'ASRO en 2019, on a été laissés de côté. Et malgré les revendications qu'on a faites à l'époque, à tous les partis, au ministère...
Mais ce que je comprends, c'est que ce que vous questionnez, vous, c'est le fait... Bon, on se rappelle que je pense que l'an passé, c'était 440 millions, je pense, d'ASRA qui avait été redistribué. Ouais. Vous, ce que vous contestez, c'est que ce 440 millions, il ne va pas nécessairement au producteur, mais il va en fait à un gros...
Oui,
qui a une problématique ailleurs, forcément, qu'à sa production.
Exact. Et les plus petits producteurs qui avaient... Les plus petits producteurs ou les producteurs comme nous qui faisaient leur mise en marché de manière différente, qui n'avaient aucun impact ou aucune responsabilité dans ce qui se passait. La fermeture de l'Imel à Vallée-Jonction, le détournement des animaux. On n'était pas impliqués et on était facturés pour aider nos compétiteurs. Les cotisations des producteurs... Eux, ils les retrouveraient, certains les retrouvaient à travers l'ASRA, mais les plus petits producteurs qui vendent des produits eux-mêmes, nous qui sommes dans la production biologique, c'est certifié bien-être animal, on n'avait aucun retour de ça. Là. Il y a eu des moments où les cotisations aux producteurs de mise en marché, à cause de ces raisons-là, à cause de ce pool-là, de cette répartition-là, dépassaient le 10 $ par part. Puis nous, pendant certaines années, là, c'était entre 1,5 et 2 millions par année, que dans le fond, on envoyait nos compétiteurs sans aucun retour. Et là, le chemin pour contester ça, pour dire, regardez, vous êtes un syndicat de producteurs, vous devriez représenter l'ensemble des producteurs, pas juste un seul modèle de commodité que vous avantagez ou un seul type d'industrie, mais vous deviez penser à tous les groupes de producteurs.
Oui, parce que si on se met dans la... Bon, je comprends que vous avez un petit peu Olimel dans le collimateur, mais si on se met dans la position d'Olimel, eux, parce qu'il y a de l'argent qui... C'est légal. C'est de l'argent qui tombe légalement parce que c'est le système qui est comme ça. Mais d'un autre côté, les éleveurs de porc, vous leur en voulez parce qu'eux, ils ne représentent pas tout le monde. En fait, ils ne prennent plus, selon votre lecture, le pouls du terrain pour représenter l'ensemble des producteurs. C'est ce que je comprends.
Le syndicat des producteurs, normalement, représente l'ensemble des producteurs vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis le MAPAC ou lorsqu'il y a des crises comme celle-là. Et là, ils ne le font pas. Ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est un peu ce qu'on reproche. Puis l'autre élément, ils vont dire, ouais, mais Dubreton a signé la convention. Oui, on a signé la convention. Mais avec une confirmation ou avec une revendication de dire, bon, ben maintenant, vous allez vous occuper des producteurs bio, des producteurs certifiés bien-être animal. Vous allez nous représenter. Vous allez nous aider à obtenir le même type d'aide, vous allez finalement nous représenter parce que jamais l'autre reproche qu'on a aux éleveurs de porc, au syndicat des éleveurs de porc du Québec, c'est qu'en aucun temps et jamais ils se sont occupés de la production de niche ou de la production de spécialité, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est un seul modèle unique.
Alors, c'est dans ce sens que ben, vous avez tweeté hein, il y a quelques semaines que la démocratie agricole était en danger. C'est dans ce sens que vous voyez un danger pour l'agriculture dans le sens qu'on fonce droit dans le mur dans un seul modèle sans avoir de vision large.
Exact. Et notre contestation aussi, c'est de dire, bon, OK, le référendum, par exemple, que la régie a ordonné aux éleveurs de porc, la raison pour laquelle ils l'ont fait, je pense que la régie veut connaître quelle est l'opinion de l'ensemble des producteurs sur notre demande d'exemption de la mise en marché collective. Parce que nous, suite à ces problèmes-là, ce qu'on a fait, on a dit, bon, c'est quoi le chemin? Comment on peut se sortir de cette impasse-là, d'arrêter de payer pour nos compétiteurs et d'être traité de manière complètement injuste par, un, notre syndicat, notre secteur, puis par ricochet, par le MAPAC, puis le gouvernement, puis les programmes en place.
Mais on peut dire que c'est déjà une étape, parce qu'on vous a longtemps entendu dire qu'à la régie, vous n'aviez pas, vous n'accédiez pas à la régie, vous n'aviez pas d'écoute à la régie. Là, la régie est de votre bord, on peut dire. Il y a de votre bord du moins. Je ne sais pas s'ils sont de votre bord, mais ils sont de votre bord au moins pour que la discussion se fasse, pour que le débat se fasse.
La première chose que la régie a faite, elle a tenté de nous réorienter. On dit, bon, vous avez fait une demande d'exemption, c'est peut-être pas la façon de le faire, voici la façon de le faire. Ils ont demandé aux éleveurs de porc de tenir un référendum pour connaître l'opinion de l'ensemble des producteurs. Et ce qu'il y a de particulier, ce qui va être intéressant, c'est que ce référendum-là, quand je dis qu'il n'y a pas de démocratie, c'est simple, c'est que la compréhension de l'industrie, de la régie, puis même, je pense qu'il y a de la jurisprudence, de c'est quoi un producteur de porc. Parce que lors d'un référendum, le syndicat des éleveurs va être obligé de dire, OK, à qui vont les votes? Est-ce qu'ils vont aux éleveurs de commodité? Est-ce qu'ils vont aux producteurs sous contrat? Est-ce qu'ils vont aux détenteurs d'animaux? À qui vont les votes lors d'un référendum? Et là, on va le voir, ça va être intéressant parce qu'il existe une définition du producteur et on va voir si lors d'un référendum, le plus gros joueur qui est actuellement a peut-être 65, 70, 75, 80% de l'industrie, combien de votes il va avoir lors du référendum? Donc, il faut savoir à la base, est-ce que ce référendum-là et l'exercice de le tenir pour comprendre qui vraiment représente le syndicat des éleveurs, comment se comporte l'UPA là-dedans, c'est quoi la démocratie agricole, est-ce qu'on va avoir un joueur avec plus de 50% des votes lors du référendum? Je ne sais pas, on va le voir. Mais c'est possible.
Alors, avant de se rendre au référendum, puisque ça a été refusé malgré l'ordonnance de la Régie des marchés, il faut se rendre à la Cour supérieure. Donc, il va falloir attendre encore quelques bons mois, j'imagine.
Ben, je pense que l'objectif des éleveurs de porc est de reporter la tenue du référendum. Ce qui est un peu drôle qu'un syndicat ne veuille pas consulter ses membres pour bien s'orienter, c'est à...
Mais est-ce que, selon vous, mettons que la Cour supérieure décide aussi qu'il faut faire un référendum, est-ce que les éleveurs de porc appliqueront? Ou pourrait encore contester?
Hey, à ce moment-là, je suppose que oui, ils vont le faire. Sinon, de ce que je comprends, et là, faudrait valider au niveau légal comme il faut, là, pour être certain de pas dire de choses qui sont fausses, mais à ce moment-là, je pense qu'il faudrait faire homologuer le jugement pour par la suite pouvoir le faire exercer, là, si jamais ça arrivait.
Alors, quand ils vous disent, parce qu'ils ont répondu, quand vous avez fait un texte, on a fait un texte suite à votre communiqué, à votre sortie sur le manque de démocratie agricole, Spontanément, les éleveurs de porc ont répondu. On a diffusé sur notre site leur réponse. Et ils disent qu'en fait, que c'est un peu de votre faute parce que vous chicanez tout le temps puis que vous ne voulez pas négocier. Comment vous voyez ça, vous?
Bon. Moi, je vous dirais que pour si on prend notre revendication à la base, là, c'est d'être responsable de notre mise en marché comme producteur de porc et de ne pas avoir à payer pour les autres. J'ai jamais eu d'offre ni de proposition. Parce que lors de la signature de la convention, moi, je pense qu'on a été dupé du Breton. On a signé de bonne foi pour qu'à cette époque-là, la convention se règle dans la situation de crise qui avait lieu à ce moment-là. Et on nous a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Donc, à partir de ce moment-là, c'est normal. Puis compte tenu de l'importance des montants, compte tenu qu'on n'a pas de service du syndicat des éleveurs de porc, que ce soit en recherche, en publicité, puis je les comprends, hein, ils peuvent pas. Dans le sens qu'on est 1, 2, 3 % de la production. Nos cahiers de charges font que, par exemple, pour pouvoir faire de la recherche dans l'élevage bio, il faudra avoir des installations bio, ce qu'ils n'ont pas, par exemple, au centre de recherche. Mmh. Et il y a plein de caractéristiques. On a tellement un système d'élevage qui est complètement différent de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils sont habitués à faire que c'est difficile pour eux de s'impliquer. Ils pourraient le faire au niveau publicité, ils pourraient le faire au niveau d'encourager les éleveurs à développer des programmes comme les nôtres, mais ça ne les intéresse pas, puis parce qu'il n'y a pas de volume, parce qu'ils ne le voient pas.
Le rôle de l'UPA, ben là je parle de l'UPA Maison Mère dans tout ça, parce que là on s'entend que les éleveurs de porc, c'est une fédération en fait, spécialisée. On a toujours le sentiment un petit peu quand on revient dans le passé. Moi, je me souviens des discussions qu'on avait avec Pierre Paradis à l'époque, qui disait que il y en a des connexions entre l'UPA et le tribunal administratif. Les gens les sont d'abord à l'UPA, puis après ils vont au tribunal, ils sont nommés. On dirait que les gens, c'est un peu les chaises musicales. Même c'est un peu vrai chez Solio, Limel. On retrouve souvent un peu les mêmes personnes partout. Est-ce que ça fait en sorte que ça alimente pas un petit peu votre discours de manque de démocratie? Puis ça vient dans le discours général où, il y a 20 ans, on parlait de l'Union paysanne, on parlait de Jacques Cartier avec les conseils des entrepreneurs agricoles, les céréales du Québec. Il y avait comme des mouvances dans le champ de gens qui disaient « Nous, on veut que ce soit différent. On veut que ce soit comme ailleurs dans le monde, plusieurs syndicats. » C'est plus vraiment le cas. Et je dirais, quelle lecture vous faites de ça et comment vous voyez le rôle que l'UPA Maison Mère peut jouer dans votre dans ce qui va se passer à la Cour supérieure?
Moi, je vous dirais que je suis dans l'agriculture, dans l'élevage de porc et la mise en marché de porc depuis 25 ans. Depuis 25 ans, je n'ai jamais eu une rencontre, ni un appel, ni aucune discussion que ce soit avec l'UPA. Est-ce que c'est normal?
Bon, ils vous ont jamais appelé?
Non, jamais. Je les ai croisés dans des événements là, où j'avais affaire là, il y avait affaire là, mais j'ai aucune rencontre avec l'UPA devant 25 ans de carrière. Donc, la question qui se pose, qui représente l'UPA? Qui représente le syndicat des éleveurs de porc du Québec? Et là, plus récemment, on le voit, hein, moi, je me plains. Du Breton, on se plaint pour les productions bio et certifiées bien-être animal. On a tenté de faire évoluer les conventions de mise en marché. Tu sais, ils ont une grosse responsabilité, l'UPA, et leur fédération spécialisée, comme le syndicat des éleveurs de porc, ils sont responsables de la mise en marché, de la loi et des règlements de la mise en marché collective ou des plans conjoints, qui ont une importance capitale dans l'évolution de l'agriculture. C'est dans le fond un système qu'eux autres ont la responsabilité de gérer. Ils ont une importance énorme.
C'est une responsabilité qui leur est donnée par la loi, par le gouvernement. Alors justement, c'est quoi le rôle du gouvernement? Bon, le rôle du gouvernement dans le pluralisme syndical, on va oublier ça. De toute façon, on a compris déjà depuis plusieurs années que c'était plus d'intérêt public au niveau du 200 chemins Sainte-Foy. Mais par contre, le gouvernement est très, très présent pour ce qui est des produits de proximité, des produits de niche. Le discours est très fort, surtout depuis l'arrivée de M. Lamontagne. Il y a ce sentiment qu'on essaie de faire tourner le navire. Mais là, ce que je comprends, c'est que vous me dites c'est l'UPA qui est censé faire tourner le navire, puis il ne tourne pas.
Non, mais moi, je vous dirais même que, OK, oui, on a un discours, mais est-ce que les investissements sont alignés? T'sais, on a vu, je pense que c'était dans le cadre de la gestion des terres agricoles, Le vérificateur général a critiqué le MAPAC pour dire, les investissements ne sont pas alignés avec la politique bioalimentaire qui vient de se terminer. Puis là, ils sont à la veille, sont dans les travaux pour mettre la nouvelle. Mais quand on regarde les budgets de l'agriculture, puis qu'on regarde la, l'argent qui est mis vs le discours dans la production dans locale ou de proximité, etc. C'est un monde, c'est deux mondes. Et ça, moi, j'ai assisté à certaines tables là, avec la Fédération des producteurs biologiques ou avec certains organismes qui travaillent dans la production bio. Le pourcentage de produits bio qu'il y a sur les tablettes, VS, le financement qu'ils reçoivent ou l'aide qu'ils reçoivent ou les sommes qui sont allouées à développer, à dynamiser cette production-là, il n'y a aucune commune mesure. Hein, c'est sous-aidé, sous-financé par rapport à la production de commodité. Et ça, on n'entend jamais l'UPA, jamais aucune fédération spécialisée le critiquer. On saupoudre, on fait des belles visites de fermes bio, ça paraît bien, à des visites de fermes locales. Mais quand on regarde derrière ça...
Vous estimez qu'il n'y a pas d'action en lien avec les politiques qui nous sont présentées, en fait.
Exact, disconnecté.
Vous le disiez aussi récemment, j'ai vu ça dans votre Twitter, je pense que c'est même ce matin, que là, il y a même un regroupement parmi les grands groupes. Vous citez même dans votre tweet Olimel, Solio et d'autres. J'imagine que vous parlez d'un groupe des 11. C'est quoi ce groupe des 11? Un groupe mystérieux des 11?
Non, ce que je comprends, c'est que le MAPAC et la financière agricole ont toujours suivi l'évolution des plus gros producteurs de porc. Okay? Puis que ce soit qu'on parle de 9, de 10, de 11, qui se démarquaient par rapport par leur taille. Puis c'est là qu'éventuellement aussi il y a eu des représentations. Puis le système a effectivement évolué. Ils n'ont pas les mêmes, par exemple, cotisations pour l'ASRA et toutes ces choses-là. Fait que là, ces gens-là, les plus grands producteurs, dont nous ne faisons pas partie, se sont regroupés et auraient formé une association. Ça serait très récent. On a même nommé un porte-parole, quelqu'un d'expérience dans l'industrie. Et puis, le syndicat des producteurs de porc a été avisé et est au courant. On va voir leur rôle. Je ne connais pas, là, j'ai pas eu plus de communication que ça, mais c'est quand même intéressant de voir que on a les producteurs de spécialité qui disent que le système ne fonctionne pas. Les règlements sont problématiques. Là, on a des petits producteurs indépendants, par exemple, qui font des animaux au pâturage, qui disent hey, « on a voulu participer au programme de retrait, on n'a pas été correctement », puis qui parlent d'aller à la régie ou de se faire entendre. Et là, maintenant, on a les plus grands producteurs qui représentent 70% de la production, probablement, là, les 10-11 plus gros producteurs qui se regroupent pour se représenter au lieu d'être représenté par la Fédération des producteurs de Port du Québec ou maintenant ce qu'on appelle les éleveurs de Port du Québec. C'est un peu spécial. Et je vous dirais que ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde de content dans les producteurs. Le 70% des producteurs se sent obligés de se créer une association. Nous qui faisons des choses différentes sommes en conflit avec les éleveurs de Port du Québec pour dire les règlements, la façon dont vous gérez ça, l'évolution, ça ne fonctionne pas.
C'est en train de se polariser, en fait. Ce que je comprends, c'est que les plus petits dans les produits niche ne se retrouvent pas représentés auprès des EPQ. Oui. Puis les plus gros ne sont plus forcément représentés non plus. Sont représentés, mais ils ont besoin de faire plus de lobbying encore en se regroupant. C'est ce que je comprends.
On va le voir dans les prochains mois. Là.
Alors justement, dans les prochains mois, ça va par vague. Là, en fait, les tarifs douaniers, on ne sait plus trop où on est rendu. Là, à l'heure où on se parle, ça va changer dans 3 heures. Oui. Mais dans l'ensemble, dans l'espace médiatique, depuis qu'on parle des tarifs douaniers, on parle beaucoup de l'automobile, mais on parle de la gestion, possiblement de la gestion de l'œuf ces heures-ci qui pourrait revenir dans le décor. Puis, il y a beaucoup de choses qui circulent. Comment d'abord, quelle lecture vous faites-vous de ce brouhaha en fait, autour des tarifs douaniers?
Bien, premièrement, la première chose que nous, on a essayé de faire, c'est de comprendre quelle était la position américaine. On comprend que ce n'est pas facile de le savoir, ça peut changer ou ça change. On a une usine qui est située aux États-Unis, on a des contacts là-bas, et c'est assez hermétique. Okay? Donc, quelle est la vraie stratégie où les Américains veulent atterrir au bout du compte? On ne le sait pas vraiment, puis on attend de voir. Là. On vit au fil des nouvelles et des annonces qui arrivent.
Mais comment ça se vit comme entrepreneur? Parce qu'il faut s'adapter. J'imagine qu'à un moment donné, on vous dit les tarifs, les produits qui s'en vont ou qui reviennent ont tel tarif ou tel tarif. Est-ce qu'il y a des contre-tarifs aussi, en fait, dans tout ça?
Ça, c'est la deuxième chose. D'un autre côté, moi, j'essaie aussi de comprendre la position canadienne. Et je ne la comprends pas beaucoup plus. Ma vision des choses, et ce que je vois, c'est que, dans le fond, au Canada, on dit, nous, on est juste pour le statu quo. On est contre la modification des règles de marché. OK, mais encore. C'est pour cette raison-là que la position du Breton, c'est nous, on est contre les tarifs américains, contre les tarifs canadiens et aussi contre les contre-tarifs. Pour une raison, puis on l'a vu, je pense qu'il y a eu un bon exemple avec Doug Ford là, dans l'automobile. Je pense qu'une escalade des tarifs ne sera pas positif ni pour les consommateurs ni pour les transformateurs d'ici. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'industrie du porc et du bœuf a toujours opéré ou opère depuis déjà de nombreuses années dans un libre marché. Donc, il n'y a aucun tarif ni à l'import ni à l'export, ce qui est différent des autres productions. Et là, il risque d'avoir des conflits. Mais oui, c'est problématique. Oui, c'est insécurisant. Notre position, à nous, on a dit, si les tarifs arrivent, on a commencé suite à la première vague de tarifs, on a parlé à nos clients. Ce qu'on va essayer de faire, c'est répartir l'impact dans l'ensemble de la chaîne. On a des clients qui ont accepté lors de la première vague de tarifs qui a été annulée après deux jours, là, qui ont accepté de collaborer, pas à 100% des tarifs. Nous, on a notre responsabilité, puis on va répartir également la responsabilité à nos partenaires, que ce soit producteurs ou autres. On va tenter de répartir l'ensemble de l'impact. Mais là, on ne connaît pas encore les pourcentages. On ne sait pas quel impact ça va avoir sa devise, ça joue un rôle important. Donc, on le voit, nous, c'est sûr qu'il va falloir mieux travailler davantage, et puis se positionner là, pour essayer de diminuer l'impact de ces tarifs-là à notre clientèle.
Puis vous parliez de Doc Ford tout à l'heure. Est-ce que vous estimez, parce que j'ai lu ça dans La Terre de chez nous, entre autres, vous estimez que l'impact en Ontario semblait plus dur au niveau de la production du porc, enfin des échanges avec les États-Unis, parce qu'ils ils exportaient moins de porc vivant. Est-ce qu'on a une situation très différente entre l'Ontario et le Québec? Est-ce qu'au niveau des abattoirs, on se situe à peu près pareil? On dit toujours au Québec qu'il y a des abattoirs confirmés, puis d'ailleurs qu'on est moins efficace en termes d'abattoirs. Il y en a moins. Comment vous voyez ça?
Première des choses, si on regarde les tarifs. Hein. Bon, tarifs américains, c'est-à-dire tous les produits, par exemple, de porc seraient tarifés à l'entrée aux États-Unis. Qui ça va toucher? Ça touche les producteurs qui exportent du vivant. Les producteurs qui exportent du vivant, bon, moi, je vous ai parlé tantôt de déportation d'animaux d'export depuis la crise là, qu'on exporte, ça va toucher ces produits-là. Donc là, les gens qui exportent, ou les producteurs qui exportent des porcs vivants, puis à cause de la loi de mise en marché, dans le fond, c'est le syndicat des producteurs de porc qui exporte les porcs puis qui vend les porcs, ce n'est pas les producteurs eux-mêmes. Donc ça va avoir un impact au Québec. Mais ils s'exportent aussi des porcelets, ils s'exportent dans le reste du Canada et même au Québec, puis ils s'exportent des animaux prêts pour le marché à l'extérieur. Puis ça, il y en a beaucoup dans l'Ouest. Donc, en ce sens-là, vous avez raison de dire que les d'autres provinces vont être touchées sur l'exportation de porcs vivants, là, qu'ils soient un porcelet qui va se faire finir là-bas ou que ce soit un animal prêt à transformer. Fait que ça, c'est un premier des impacts. Deuxième des impacts, c'est les entreprises qui exportent des produits aux États-Unis, comme nous autres, par exemple, ou comme Olimel, ou comme les autres joueurs. Là, les joueurs sont touchés différemment. Toutes les usines ou les entreprises n'ont pas les mêmes pourcentages d'exportation ou n'ont pas les mêmes stratégies de marché. Certains vont être plus forts en Chine ou au Japon. D'autres vont vendre davantage aux États-Unis. Je vous dirais que nous, de ce côté-là, on est surexposés pour les ventes aux États-Unis. Beaucoup de nos exportations sont aux États-Unis. Et après ça, il y aurait les producteurs de produits finis, les surtransformateurs qui exportent aux États-Unis. Leurs produits seraient touchés aussi. À l'inverse, si le Canada met des contre-tarifs, bien là, c'est l'effet inverse. C'est les chaînes d'alimentation qui vont être touchées, qui s'approvisionnent en produits américains. C'est les surtransformateurs canadiens qui achètent des produits américains. Si vous regardez dans les statistiques qui sont publiques, là, on importe au Canada beaucoup de produits de porc, là, que ce soit des jambons, que ce soit des flancs de porc pour faire du bacon. Il y a beaucoup de transformateurs qui s'approvisionnent aux États-Unis.
Et concernant la Chine, on sait que la Chine, en fait, vit aussi avec des contre-tarifs, puisqu'on a parlé, je pense, des 100% sur les autos chinoises. La réponse de la Chine, c'était on va mettre 25% sur le porc. On sait que pour le porc, en tout cas pour certaines compagnies, pour le Québec, c'est important, la Chine, en fait, comme marché d'exportation, en fait.
Oui, tous les sous-produits, que ce soit souvent bon, les pieds, les têtes, les abats, beaucoup de produits sont exportés en Chine, là, que nous, on ne consomme pas ici, sont exportés en Asie et principalement en Chine.
Et pour terminer, on entend parler depuis quelques années de la peste porcine africaine, la PPA. On en entend un petit peu plus parler actuellement parce qu'on entend... d'abord, on est un petit peu inquiet, je pense, parce qu'on voit la grippe aviaire qui a développé dans les cheptels porcins, bovins. Donc, on se comprend qu'au niveau sanitaire, il y a des choses qui se passent dans le monde et notamment en Amérique du Nord. Là, on voit que le fédéral vient de lancer 500 ou 600 millions annoncés pour soutenir les producteurs en cas de peste porcine africaine. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut craindre? Est-ce que c'est une question de méthode d'élevage qu'on peut avoir dans certaines usines? Est-ce que c'est parce que les porcs ont trop de proximité? C'est quoi la raison de ce danger-là, en fait?
Ben, nous, la position qu'on a là-dessus du Breton, c'est sûr que ces maladies-là, souvent, là, en tout cas au fil des dernières décennies, on peut voir au Canada qu'ils ont eu toutes les maladies qui sont arrivées d'un cheptel. En tout cas, souvent, il y a différentes causes. Hein. Le transport en est une, ça, c'en est une importante. Des fois, c'était à travers aussi les produits d'alimentation qu'on importe, les grains ou les différents éléments. Et l'autre élément pouvait être aussi à travers la génétique ou les animaux eux-mêmes qui étaient importés. Une des critiques que nous, on a, c'est que la réglementation, par exemple, là, on en a parlé tantôt, ils s'exportent beaucoup d'animaux, que ce soit des porcelets ou des porcs vivants aux États-Unis. Quand ces camions-là reviennent, la réglementation pour le nettoyage des camions n'est pas très sévère et n'est pas appliquée de façon rigoureuse.
Ça veut dire qu'on charge des porcs qui partent d'ici, qui vont aux États-Unis, oui. Mais on ne fait pas forcément un grand nettoyage du camion, on remet des porcs, puis on...
On remet pas des porcs, mais ces animaux-là vont revenir. Ces camions-là reviennent avec de la ribe dedans, avec les excréments que les animaux...
OK, on ramène pas de porcs vivants. On emmène nos porcs vivants pour abattage.
Exact.
Mais les camions reviennent comment? À vide?
Vide, oui. Ouais.
Mais avec...
La ribe qui a été mise pour les protéger lors de l'hiver, par exemple, d'engelure, avec le matériel, avec les excréments qu'ils ont fait durant le voyage. Et ces camions-là ne sont pas là, rincés, désinfectés, de manière rigoureuse. Il n'y a pas de station de lavage, là, par exemple, à l'entrée de la frontière. Et ça, c'est une critique importante que
nombreuses années. C'est pas une obligation, ça, de...
Il y a une obligation dans la loi, mais par exemple, l'hiver, on peut... Le nettoyage, ça veut dire gratter. Là. Ça veut dire faire le grattage du trailer puis enlever la ribe, par exemple. Et cette réglementation-là, par exemple, de désinfection n'est pas appliquée de manière rigoureuse et n'est pas là. Moi, ça, là, c'est, à mon sens, c'est un grand risque que prend le Canada puis qui met en danger l'ensemble de l'agriculture, ou en tout cas notre secteur viande et d'élevage au Canada. C'est, à mon avis, irresponsable de la façon dont c'est fait. Pourquoi c'est pas fait? Je sais pas. Probablement budget, probablement. Est-ce qu'il y a des intérêts, par exemple, des transporteurs où les coûts d'exporter des animaux seraient plus élevés? J'ai de la misère à vous dire la vraie raison de ça, là, mais à mon sens, c'est catastrophique.
Monsieur Botton, merci. On en apprend toujours beaucoup sur la production porcine quand vous venez. On va suivre de très près, d'ailleurs, l'évolution en cours supérieur de votre dossier.
Merci beaucoup.